Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, l'actualité économique du jour. On va évoquer un chiffre qui n'a ému personne, 3 303 milliards d'euros de dette. C'était l'INSEE vendredi, 113% du PIB. J'ai retrouvé une chronique que je faisais en 2020. 100% de dette publique, est-ce que c'est grave, docteur? Bon ben voilà, je vais recommencer avec 113% et puis je recommencerai peut-être. Bon, je vais me livrer à de l'anti-jeu pour démarrer cette émission avec mes invités. Je vais essayer d'argumenter le fait que non, la dette, c'est pas grave. François Bayrou, lui, en tout cas, parle de la dernière station avant la falaise. Le problème, c'est que chacun y va de sa petite formule. Mais finalement, on est toujours là, on a fait des très beaux JO, Notre-Dame est superbe. Fillon disait faillite en 2007, il s'est écoulé 17 ans. Et finalement, tout va bien. Hein, il y avait Nicolas Bavrez qui écrivait « La France qui tombe ». C'était il y a 20 ans. Bah, je sais pas si elle tombe, mais elle est toujours là. Bon, bref, voilà. On va essayer de rentrer dans le détail de ce chiffre. On va évoquer aussi le futur budget. Il a dit mi-février, Michel Barnier. Hein, Michel Barnier a dit mi-février. Alors, qu'est-ce que ce sera, ce budget? Une copie toute neuve? Ou alors, finalement, une réécriture ou une ressucée de ce que Michel Barnier a laissé? Et vous verrez qu'en fonction de l'une ou de l'autre option, eh bien, ça n'est pas neutre, notamment pour les contribuables et notamment pour les entreprises. À l'évidence, en 2025, la Fed et la BCE vont diverger. Alors, quelles seront les conséquences concrètes? Faut-il le redouter? Bon, l'euro ce matin est à 1,04$, c'est un plus bas depuis 2 ans. BPCE pourra vendre des cryptos à ses clients. La banque a obtenu l'agrément pour sa filiale dédiée. Et puis on évoquera l'histoire de l'hélicoptère Monnaie ressuscité dans une chronique de Xavier Jaravel. C'était dans les Échos jeudi dernier. Il pense que les taux nominaux vont revenir à zéro, que la Banque centrale n'aura plus d'outils conventionnels pour porter l'activité économique et donc elle devra ouvrir un compte à chaque citoyen européen, verser de l'argent de manière perpétuelle sur ses comptes, mais probablement de l'argent avec une date limite de consommation, de manière à ce qu'il soit dépensé et qu'il ne finisse pas en épargne. Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, professeur à Neoma Business School. Il y aura une émission demain. Demain, c'est la dernière avant Noël, ils diront ce qu'ils veulent. Enfin, bon, remarquez, vous dites ce que vous voulez. Vous connaissez la maison.
On aurait dû venir demain, alors.
Dorothée Rouzet, bonjour.
Bonjour.
Chef économiste de la Direction Générale du Trésor, Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. On évoquera avec Christian le fait que c'est peut-être un revers pour Donald Trump. Le premier, vraiment, il voulait rehausser le plafond de la dette. Il n'y est pas parvenu à cause de la résistance d'élus républicains qui ont refusé que le plafond de la dette ne soit relevé. En tout cas, accord a été trouvé pour éviter le shutdown de l'économie américaine. Alors, je disais, je vais faire de l'anti-jeu. Je me suis dit, 3 300 milliards d'euros de dette, c'était 870 en 2000. On passe les 2 000 milliards en 2016, les 3 000 milliards en 2023. Enfin, on est toujours là, on n'est pas en faillite. Quand l'agence France Trésor émet de la dette française, ça part comme des petits pains. Elle veut 10 milliards, il y a de la demande pour 35. Pourquoi on s'inquiéterait? On emprunte plus cher, c'est vrai, mais enfin, vendredi, on était à 3,07 sur le taux à 10 ans. Enfin, je vous rappelle que les Grecs sont montés au-delà de 30, donc c'est pas non plus infranchissable. Et finalement, le pourcentage de la dette par rapport au PIB, personne ne sait s'il y a un pourcentage maximum. On a un Japon qui traîne à 240% de dette sur PIB depuis des années, qui vit. Et on a eu pendant très longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui, mais une Argentine qui était laminée. Au fond du trou, il y avait moins de 50% de dette sur PIB. Non, on n'est pas la Grèce, il y a eu cette idée qui a été véhiculée, mais non. Et puis effectivement, la faillite de Fillon, c'était en 2007, et il s'est écoulé 17 ans, on est toujours là. Est-ce que j'ai raison, Nathalie, de dire que... pourquoi s'ennuyer? On a 80% des députés qui vont nous proposer des dépenses dans le futur budget.
Alors, moi, je dirais que de toute façon, oui, sur le plan strictement de la demande de titres publics, on n'a pas l'air de... il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisqu'elle est toujours là. Et d'autant plus que nous, on a quand même une partie importante de dette qui part à l'étranger. On a une demande...
54%.
On est à plus de 50%. Ouais. Visiblement, on a l'air de ne pas affoler absolument quiconque sur la planète. Sans doute, effectivement, pas grâce à la zone euro, puisque en fait, c'est la théorie initiale, hein, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à cet euro, tout le monde peut s'endetter davantage, qui était la crainte des Allemands à l'origine, et c'est pour ça qu'ils avaient mis le pacte de stabilité, parce qu'ils n'étaient pas fous. Ils s'étaient bien rendu compte qu'il y avait peut-être un vice caché dans cette construction européenne.
Il a fallu près de 10 ans, hein, pour se rendre compte qu'une dette grecque n'était pas exactement une dette allemande. Donc, on achetait un euro grec un peu, ou alors un euro allemand, ou un euro français.
Et donc, comme aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs qui ont été créés depuis, justement, la crise grecque, il y a encore moins de raisons, puisque maintenant, on a même des... Avant, on n'avait pas pensé aux règles de fonctionnement au cas où un pays ait des réelles difficultés. Aujourd'hui, on les a prévues. Pour le moment, ils s'inquiètent pas parce que effectivement, la levée d'impôts se fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, je trouve que ce qui est le plus grave dans cette histoire, c'est que sur le papier, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais honnêtement, quand on voit nous notre taux d'endettement et notre croissance économique et notre potentiel, quand on compare aux États-Unis, qui est effectivement aussi très endetté, le gros problème, c'est que nous, on étouffe parce que on n'a pas de productivité. Donc bon, voilà. Si on trouve ça bien comme résultat, soit. Mais je pense pas qu'on soit sur une route très enthousiasmante.
En vous écoutant, si je suis un aficionados de circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas un problème. J'ai tous les arguments pour aller expliquer aux braves gens qu'il ne faut pas s'inquiéter.
Exactement.
Ben voilà. On est d'accord ?
RAS, on va mourir un
Dorothée,
petit peu.
RAS, RAS, c'est Noël.
Oui, c'est voilà. Noël. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que de toute façon, il n'y a pas de raison d'être alarmiste ou de dire la France, c'est la Grèce. Non, la France, c'est pas la Grèce.
C'est sûr que non.
Oui, la dette se place bien. On a des investisseurs qui sont toujours là et qui sont assez diversifiés, qui sont un peu partout dans le monde, qui sont stables. On n'a pas d'alarmisme. Maintenant, pourquoi s'inquiéter ? Pas à très court terme. Mais le risque, c'est plutôt celui du lent déclin que celui de la crise brutale qui n'existe pas aujourd'hui. Par contre, pour moi, il y a deux motifs d'inquiétude. L'un, c'est que, alors oui, la dette a augmenté. Elle a augmenté dans tous les pays européens avec les crises, etc. Le problème aujourd'hui, c'est plus la divergence, c'est-à-dire que les autres pays européens vont revenir sous 3% plus vite que nous. Les autres pays européens vont voir leur ratio de dette baisser plus vite que nous. Et donc, c'est cette divergence qui nous singularise et qui est plutôt plus inquiétante quand on augmentait notre dette et que l'Allemagne augmentait aussi sa dette et que les autres pays augmentaient leur dette pour soutenir l'économie pendant le Covid, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est plutôt maintenant de pas se singulariser pendant trop longtemps. Et le deuxième motif d'inquiétude, et c'est plus, ça rejoint un peu ce que disait Nathalie, c'est s'endetter pourquoi ? C'est-à-dire que oui, s'endetter pour investir les États-Unis qui investissent massivement dans l'IA, qui investissent massivement partout. Alors, ils ont sans doute trop de déficit, hein, par ailleurs. Mais ils ont beaucoup de croissance. Et ce qui compte, c'est le ratio dette sur PIB, c'est la croissance aussi. S'endetter pour payer les retraites, c'est un peu plus gênant pour payer un régime qui devrait être équilibré, et c'est là aussi que l'autre inquiétude, c'est de se dire, bah, finalement, dans le débat, on parle tout autant de dépenses nouvelles, y compris de dépenses qui sont pas des dépenses d'investissement, que d'économie, voire on parle plus de dépenses nouvelles que d'économie. Et c'est un peu cette dichotomie qui...
Si vous étiez avec nous vendredi, un de mes invités, qui s'appelle Jean-Marc Vittori, a rappelé que structurellement, un système d'assurance vieillesse doit être à l'équilibre et n'a pas vocation à être... Oui. Je crois qu'on doit avoir une ou deux pensions payées par la dette aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on ajoute, docteur Parizeau?
Je dirais que déjà, d'une part, c'est un point important. En France, on préfère avoir de la dépense publique que de la dépense privée. Donc ça, c'est déjà un choix de société. Alors après, il faudrait que cette dépense publique soit équilibrée, mais en tout cas, on peut pas reprocher ça. Les Français, majoritairement, quand vous prenez aujourd'hui, ce que nous disent les Français, c'est qu'ils veulent plus de protection sociale, ils veulent que l'État finance leur retraite, et donc finalement, ils acceptent que ça soit pas eux qui gèrent leurs dépenses, mais que ça soit l'effort public qui le fasse. Donc ça, il y a un gros biais en France déjà là-dessus.
C'est un peu inconscient, ce biais.
C'est peut-être inconscient, mais c'est ce qui explique qu'on accepte des taux de prélèvement obligatoires aussi élevés, parce que finalement, on accepte que quelque part, une partie de ma consommation soit gérée. Alors, on est toujours en train de critiquer les politiques, mais on leur demande de gérer finalement une partie de notre consommation.
Donc il y a déjà... À chaque sujet, c'est que peut faire l'État ? Que peut faire l'État ?
Voilà.
Donc, pouvoir d'achat, voilà. Que peut faire l'État ?
Et
productivité,
ça,
que peut faire l'État ?
Par contre, vous discutez avec un Américain, il ne va pas vous comprendre là-dessus. Hein. Et je peux vous dire que vous êtes sur deux mondes différents.
On a peut-être jamais ouvert le débat, Christian Parizeau. Si collectivement, on a tous envie d'avoir une énorme pan de notre existence intégralement gérée par la puissance publique.
En tout cas, c'est quelque chose qui est dans les faits. Alors,
mais
le gros problème, c'est qu'on crée un déficit. Donc on dépense plus. Parce que je vous rappelle juste qu'on est en déficit courant en France, c'est-à-dire qu'on consomme trop, mais ce n'est pas la faute des Français, c'est la faute des dépenses de l'État. Il faut bien comprendre, puisque les Français, ils épargnent, les entreprises françaises, elles épargnent actuellement, mais c'est vraiment à cause du déficit de l'État. Donc aujourd'hui, si on consomme trop aujourd'hui, entre guillemets, c'est à cause des dépenses de l'État. Et ça, c'est un choix de société. Donc,
manque d'épargne à cause de l'État, cause des bas de laine.
Par contre, on est quand même sur un élément qui est important, c'est qu'au niveau européen, on est sur un excès d'épargne. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, ça explique aussi pourquoi on a de l'appétit pour notre dette. Parce que d'un côté, vous avez plein d'Allemands qui épargnent, mais qui ne peuvent pas le placer dans leur propre dette, puisqu'eux-mêmes ne mettent pas suffisamment de dette. Et donc, la France profite de ça, parce qu'un Allemand, il va se dire, j'ai le choix entre, je préférerais le mettre en Allemagne, mais je ne peux pas. Donc, je vais le mettre peut-être en France. En Italie, c'est encore un peu plus chaud. Et donc, finalement, ils ont acheté un peu de la dette espagnole, mais maintenant, ça y est, c'est un tout petit marché. Et donc, on profite finalement de l'épargne des Allemands. on consomme l'épargne des Allemands. Donc, mais c'est aussi parce que on a une zone euro qui est en excès d'épargne. Et ça, ça est un élément très stabilisateur. Alors, le seul problème, et ça, je le maîtrise pas, c'est à partir de quand on perd la confiance, finalement, de nos partenaires européens. Et c'est
là on a l'impression qu'elle est inaliénable.
Oui.
Enfin, quand on voit l'image qu'on envoie.
Oui, mais c'est ça le problème.
Dissolution, censure, budget planté, loi spéciale, une incertitude totale sur 2025. Après,
c'est tout le problème.
Zéro majorité.
Voilà. Mais c'est tout le problème des marchés. Pour qui aurait pu prévoir qu'à un moment donné, il y a une défiance vis-à-vis de la dette anglaise?
Oui,
ça s'est fait en 24 heures.
Ouais, oui.
Et le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est pas forcément. Alors on va dire.
Oui, mais on sait pourquoi.
Moi, je suis le premier surpris.
On sait pourquoi l'Angleterre.
Moi, j'étais sur un écartement du spread France-Allemagne. Je pensais qu'on allait mettre une prime beaucoup plus élevée sur la France et les marchés n'ont pas réagi. Mais vous êtes quand même sur cette vulnérabilité et vous avez un vrai problème de communication. Alors certes, on peut encore faire un an, on peut encore faire deux ans, trois ans, je sais pas. Mais à un moment donné, ça se paiera parce qu'il y aura une réaction de marché. Et vous perdez en 15 minutes la confiance et vous mettez des années pour la regagner. Regardez les taux anglais, comment ils sont volatiles. Alors on va me dire, oui, il y a la BCE, oui, on est dans la zone euro. Encore une fois, on est dans une zone d'excès d'épargne. Donc l'Angleterre, ils ont un déficit courant, ils ont un manque d'épargne, donc ils sont obligés d'attirer les capitaux étrangers, ouais. Ils sont obligés d'avoir cette confiance. Nous, on n'est pas le cas, mais le jour où on perd la confiance des Allemands, le jour où on perd la confiance de nos partenaires européens, on a un vrai problème de défiance.
Vous me dites, on ne peut pas dire jamais.
On peut pas dire jamais.
On peut pas dire jamais, ça
mais c'est vrai que ça donne l'impression qu'on est toujours, on peut rester encore sur 10 ans comme ça, mais attention, on perd en un quart d'heure et on met des années après à le regagner. Mais donc c'est vraiment, on peut, moi je trouve qu'on joue quand même un peu avec le feu et au moins en communication. Je dis pas qu'il faille d'un seul coup revenir à un déficit à zéro et tout, mais il faut vraiment faire très attention comment on communique vis-à-vis de ça.
Alors actuellement, on est en train de communiquer sur le fait qu'on va bidouiller la réforme des retraites.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est en train d'envoyer probablement le dernier pôle qui donne l'impression que la nation n'est pas laxiste. On est en train de dire qu'on va peut-être reculer, peut-être faire machine arrière, peut-être décider collectivement de travailler moins. On peut se permettre ce genre de truc. Parce que c'est toujours pareil, comme dit Christian, oui, il y a un moment en Grande-Bretagne où en 24 heures, le truc vrille. Alors, on se dit que nous, on est too big to fail, la Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro, donc elle n'a pas ce parapluie, cette signature allemande avec cette banque centrale super puissante. Est-ce que c'est pas la goutte de trop, Nathalie, si vraiment on se met à faire n'importe quoi avec cette réforme des retraites, qui est quand même à la base une simple réforme paramétrique basique?
Et surtout, ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est que on sait que le problème des retraites, il faut vraiment le prendre à bras le corps parce que c'est urgent. On a repoussé sous le tapis la réforme depuis des années. On sait que, compte tenu de la démographie, qui n'est pas une surprise, s'il n'y a pas de surprise, c'est bien la démographie.
On est d'accord.
Parce que vu que c'est dans le temps, ça s'inscrit dans le temps long. Donc on se dit, mais pourquoi on veut absolument massacrer cette gestion des retraites alors que on voit bien que ça crée des effets délétères, c'est-à-dire le rendement de la retraite aujourd'hui, il est extrêmement bas. Enfin, je veux dire, les jeunes, ils savent pas ce qu'ils auront. Donc, en plus,
ils auront moins que ce qu'ils ont cotisé.
C'est plus que moins que... Oui, ils se demandent même si... Enfin, je veux dire, c'est même intenable. On a quand même des millions d'expériences autour de nous de comment on a pu réformer les retraites venant des pays du Nord en mettant de la capitalisation sans qu'elle soit totale, en le rendant obligatoire dans un certain pourcentage. Enfin, il y a plein de choses qui ont déjà été étudiées. Il y a encore une récente note de Bertrand Martineau pour la Fondapol qui explique très bien, c'est très didactique, on voit très bien comment on pourrait faire en prenant en compte toutes les récriminations, parce que ce serait géré par un fonds.
On a déjà le fonds de réserve des retraites point de départ.
En plus, on sait très bien que la capitalisation permettrait également de faire circuler l'épargne davantage dans l'économie, donc elle a un second effet très positif pour l'économie, c'est que pour les entreprises, il y a plus de fonds disponibles, il y a plus de financement possible. Et là, on est en train de dire, on va remettre en cause les quelques paramètres qui ont été discutés. On s'est dit, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on va vraiment à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Et ça, par contre, c'est dommageable parce que c'est très populiste. Ouais. Parce que c'est dire que finalement, on peut rediscuter ça, alors qu'en fait, c'est pas possible.
J'écoutais Jean-Louis Bourlange, que malheureusement, je ne peux pas faire venir encore dans cette émission parce qu'il a toujours l'étiquette MoDem et que j'ai des problèmes de temps de parole. Il était sur LCI vendredi. Lui, il considère que ce serait le signal de trop. D'un pays qui va à l'envers de l'histoire.
Là, c'est carrément remettre en plus... C'est aggraver effectivement les déficits pour des mauvaises raisons. En plus.
Dorothée Rouzet, après, on va regarder un détail sur le budget que vous m'avez signalé avant l'émission.
Non, moi je pense sur les retraites, effectivement il y a deux niveaux de lecture. Est-ce que ce serait un signal très défavorable de revenir d'abroger la réforme des retraites ou de revenir significativement
c'est
quelque chose que les marchés regardent. Ils regardent pas les détails de chaque mesure, mais celle-ci elle est visible. Pour moi l'autre niveau de lecture et qui est peut-être le plus important, c'est de dire il y a plusieurs choses que faisait cette réforme des retraites. L'une c'est d'essayer d'équilibrer ou d'aller vers l'équilibre du régime des retraites. On voit bien même que ça suffisait pas. Et l'autre c'est d'augmenter la quantité de travail dans l'économie. Oui. C'est ça qui en fait pour moi c'est ça qui est important à préserver. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, sur la pénibilité? Enfin, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Je pense que ce qu'il faut vraiment préserver, même si certains curseurs bougent, c'est cette idée qu'il faut travailler plus collectivement. Parce que cette réforme, oui, elle nous faisait des financements pour le système des retraites, même quand on regardait son incidence sur le budget des administrations publiques dans son ensemble, il y avait une partie qui venait d'améliorer le solde du régime de retraite et une partie plus grosse qui venait de cet effet macroéconomique de on travaille plus, ça ferait 300 000 emplois de plus à horizon 2030, ça nous faisait plus d'un point de PIB en plus, et bien ça c'est de la TVA, de l'impôt sur le revenu, etc. qui rentre. Et on a besoin de cette croissance et on a besoin de cet effet sur le travail. Je pense que c'est ça qu'il faut préserver. Après, est-ce qu'on peut bouger des choses à la marge pour améliorer, etc. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que l'objectif premier doit être ne pas revenir sur le fait que collectivement, on doit travailler plus.
Oui, c'est justement d'autant plus important qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qu'on ne peut plus monter. Parce qu'on le voit bien.
On peut toujours.
On peut, mais on voit qu'il y a un effet d'affaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, on voit que derrière, il y a quand même une limite aujourd'hui au taux de prélèvement. Donc la base fiscale, il faut l'augmenter. La base fiscale, soit c'est de la gain de productivité, soit c'est les gens qui travaillent. Et donc, globalement, on voit qu'aujourd'hui, on est au taquet sur le taux de prélèvement. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut qu'agir sur la base fiscale. Et je pense qu'en effet, que les investisseurs seront très sensibles au message qu'on envoie. Finalement, ils nous laissent faire ce qu'on veut dans notre magouille. Mais ce qu'ils regarderont, c'est finalement, est-ce qu'on a la capacité à lever l'impôt, on l'a dit, mais on ne peut plus jouer sur le taux. Donc forcément, il faut regarder la base fiscale, comment on fait évoluer la base fiscale, et c'est notre croissance potentielle. Et la croissance potentielle, c'est le nombre de gens qui travaillent avec leur productivité. Alors, à part si vous me dites que la France va doubler sa productivité dans les prochaines années, je peux vous dire que les gens seront très sensibles au nombre de personnes, au nombre de Français qui vont travailler.
J'ai un auditeur qui m'écrit, le problème de la capitalisation, c'est que tout le monde ne peut pas épargner. Je vous répondrai si vous voulez, mais je vous cite juste Jean-Louis Bourlange vendredi. Il disait, je crois que j'ai quasiment noté mot pour mot ce qu'il disait. Le dernier élément qui envoie le signal que le pays n'est pas totalement laxiste est la dernière réforme des retraites, celle qui augmente la force de travail pour rééquilibrer les comptes, pour produire et pour distribuer de la protection sociale. Si on touche à ça, on dit au reste du monde que nous reculons, que nous décidons de travailler moins et de dépenser plus. On répond à cette personne qui dit que tout le monde ne peut pas mettre de l'argent de côté tous les mois pour de la capitalisation.
Dans le plan qui a été suggéré, c'est juste d'avoir une modification de là où est alloué l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement aux actifs, une partie serait mise en capitalisation. On ne demande pas, on ne va pas augmenter le taux de cotisation. Le taux de cotisation du retraité, il change, enfin, de celui qui paye pour les retraités, celui qui travaille sur les salariés ne change pas.
C'est la modification
de la façon dont c'est alloué.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas mal d'années de transition.
Exactement, il faut beaucoup d'années de transition et c'est pour le moment on pourrait peut-être, alors certains disent voilà, ça pourrait être de la bonne dette, voilà, donc on pourrait peut-être la lever plus facilement, et si on le fait de façon, puisque là le trop préconisé par Bertrand Martineau c'était 33%, donc c'est pas énorme non plus, et ça permet, en fait il montre bien que ça permet sans trop creuser le trou de passer vers quelque chose de plus vertueux, parce qu'en fait il y a un moment donné forcément ça se creuse et après on va vers des rangs plus élevé, donc
mais
c'est plus
les Français le font déjà via l'assurance vie.
Oui, mais c'est pas obligatoire.
Obligatoire, mais je pense que si effectivement on devient crédible sur la retraite, ça peut permettre de faire baisser le taux d'épargne des Français.
Sans doute.
Ça aura un effet. Oui, tout à fait.
La crédibilité du financement des retraites est quand même un élément qui explique le taux d'épargne élevé des Français.
À l'occasion d'un pacte PME, la CPME avait proposé d'imaginer que le fonds de réserve des retraites, créé sous Lionel Jospin, si ma mémoire est bonne, pourrait servir de point de départ à la mise en place d'une capitalisation obligatoire, bien sûr. Bon, il y a une minute, je ne vais pas vous lancer sur le jeu. J'introduis juste. On parlait du budget dans le couloir avant l'émission. Et mes invités m'ont alerté sur le fait que si on reprend la copie Barnier en mi-février, c'est la date qu'a annoncé François Bayrou, c'est pas du tout pareil que si on arrive avec une copie neuve. Et notamment concernant ce qui serait rétroactif ou pas rétroactif, et éventuellement une rétroactivité pouvant aller jusqu'en 2024. Si vous venez avec une copie neuve, ça ne peut pas arriver. Si vous reprenez une copie engagée en 2024, eh bien éventuellement, il peut y avoir des situations où la rétroactivité est possible. Bon, ça va encore être un super sujet technique, mais enfin, en tout cas, celui-là n'est pas totalement inintéressant parce que bah, tout le monde pense que ces dividendes seront en flat tax 30%, par exemple, s'ils sont exercés avant le 31 décembre. Et visiblement, d'ailleurs, il y a pas mal de dividendes exercés en ce moment, un peu plus que d'habitude. Parce que l'avenir est incertain. Eh, mais dans ces cas-là, est-ce que tout ça est absolument certain? Je ne sais pas. Enfin, on va en parler dans un instant. On évoquera également le fait qu'Elon Musk, pardon, Donald Trump, n'a pas obtenu la majorité du Congrès pour relever le plafond de la dette aux États-Unis, même si un accord est intervenu pour éviter l'arrêt immédiat des crédits fédéraux. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Christian Parizeau, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. C'est en discutant avec vous, Dorothée Rouzet, et avec Christian, notamment quand on était ensemble dans le couloir, que j'ai pris conscience de ça. Moi, je pars, et d'ailleurs, je l'ai dit, et donc j'ai dit une bêtise probablement. J'ai dit, a priori, loi spéciale, pas de budget, vous pouvez être tranquille, tout ce qui a été fait en 2024 sera soumis à la fiscalité que vous connaissez, la fiscalité 2024. Et il ne pourra pas y avoir de rétroactivité. Et vous m'expliquez que peut-être, alors ce sera une guerre de juristes probablement, mais peut-être que si on reprenait la copie Barnier dans la mesure où elle est entamée en 2024, ce qu'elle prévoit car elle a été entamée en 2024 peut revenir par rétroactivité sur 2024. Ce qui ne serait pas le cas avec une copie 2025. Neuve. Pardon ?
Sur 2025. Sur la fiscalité de 2025.
Oui. Et donc avec une copie neuve, ça ne pourrait pas arriver. C'est ça l'histoire ?
Alors, je suis pas juriste.
Hein, non, mais justement, c'est
un débat de juriste pour lequel je suis pas vraiment compétente. Mais en tout cas, les règles de rétroactivité. S'il y a un budget tout neuf fait depuis une page blanche, il est clair qu'un budget tout neuf élaboré en 2025 ne peut pas avoir de rétroactivité sur 2024. On n'a pas le droit de faire de la rétroactivité sur les règles fiscales et notamment de manière défavorable. Et donc, déjà de ce côté-là, il y aurait pas de sujet. Ensuite, là, il y a un peu de rétroactivité possible en cours d'année, ce qu'on appelle la petite rétroactivité. C'est par exemple si on a un budget adopté en cours d'année, par définition, il ne le sera pas au 1er janvier. Et sur certains dispositifs fiscaux, on peut faire de la rétroactivité au 1er janvier.
Au 1er janvier.
Mais en revanche, dans un budget neuf, on peut pas. Si on reprend la copie Barnier, le débat, et honnêtement, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est le Conseil constitutionnel qui trancherait à la fin. Et est-ce que dans la mesure où notamment les mesures qui étaient dans la copie d'origine dans le PLF déposé en octobre étaient annoncées, on peut dire que en quelque sorte on prend pas les gens en traître puisque c'était déjà annoncé en 2024 et que ça ne fait que continuer. Je sais pas du tout si ça tient juridiquement. Des arguments qu'on entend encore une fois, ce sera plutôt aux juristes de trancher.
Vous avez une opinion, Christian Parizeau?
Ah oui, j'ai une opinion. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans notre droit, c'est quelque chose de très fort, hein, la non-rétroactivité des lois.
Moi, j'ai en mémoire article 2 du Code civil, la loi n'est pas rétroactive, sauf si elle est plus douce.
Donc, quoi qu'il arrive, là, il y a un vrai problème budgétaire pour l'année prochaine pour lever l'impôt. Alors, il y aura peut-être, si justement, là, les surtaxes pour les plus riches, des choses comme ça, ça a déjà été annoncé. Oui. Donc, on s'appuie là-dessus. Mais il y a un vrai risque d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Et donc, ça montre à quel point, aujourd'hui, ça va être encore plus complexe de créer un budget, d'avoir un consensus sur le budget, de le voter, et derrière, de ne pas être retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez les délais déjà, parce que même s'il le présente le 15 février, il faut déjà qu'après ça passe au niveau du Parlement, hein, on va avoir déjà la foire aux bonnes idées qui va repartir, et on va s'apercevoir qu'on ne peut pas faire des nouvelles idées. Donc déjà, ça va déjà poser pas mal de problèmes. Et puis derrière, je pense qu'on va être sur un budget à minima parce qu'on va être très contraint ou risquer de se faire retoquer par le
budget à minima, ça signifie
Ça veut dire déjà un déficit public bien plus élevé et qu'on va pas faire d'efforts cette année en termes de déficit public. Ça, c'est évident.
Est-ce qu'on a le temps entre après les fêtes et le 15 février de pondre un budget totalement
neuf? Alors, c'est tout le problème, c'est qu'il sera obligé de reprendre. S'il reprend la copie Barnier, il sera obligé de reprendre des choses qui ont déjà été proposées par Monsieur Barnier. On peut pas faire une nouvelle foire aux bonnes idées. Donc ça va limiter énormément la capacité à lever l'impôt de l'État français.
Ça va être super sympa.
Par contre, dans les dépenses, on peut y aller, mais dans la partie levée d'impôt. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur, un délai qui va se prolonger, qui va être très long. Et ça, c'est quand même important. Et d'autre part, un vrai risque constitutionnel de se faire retoquer le budget. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et ça va prendre du temps, tout ça. Donc, on peut régler le problème très rapidement. Le fait qu'on va indexer très rapidement l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Je vous laisse passer tout ça va prendre beaucoup plus de temps à mon avis, et ça s'annonce quand même un vrai élément d'immobilisme. Et puis derrière, là, tout le débat qu'on a, on dit on peut faire de la rétroactivité si on reprend Barnier, bah, je pense que ça va recréer de l'incertitude sur les entreprises, et je pense que les entreprises, là, elles vont plus rien comprendre. Mais en gros, est-ce que je verse mes dividendes ou pas? Que ma taxe sur le transport aérien va être levée ou pas? Mais moi, j'avais mis dans mes billets d'avion à partir du 1er janvier. J'avais déjà commencé à facturer ça à mes clients. Donc, j'ai dit, je vais les rembourser. Mais derrière, on me dit, bah non, finalement, ça sera rétroactif à partir du 1er janvier parce que c'était dit dans la loi de Monsieur Barnier et que j'ai droit quand même de le faire le 15 février prochain. Je vous laisse imaginer pour des compagnies comme Air France, comment c'est insoluble tout ça. Donc,
mais je pense que là-dessus, le vrai débat, c'est pas la rétroactivité, c'est l'incertitude. Oui, c'est-à-dire que rétroactif ou pas rétroactif, c'est même pas la question. C'est que juste, on ne sait pas ce qu'il y aura dans le budget qui sera voté. Et c'est pas, en fait, c'est pas indolore de ne pas avoir de budget au 1er janvier. Oui, c'est un peu le bazar par rapport à une situation où normalement, au 1er janvier, on sait quelles sont les règles qui s'appliquent pour l'année en cours. Donc, je pense que c'est juste, oui, il y a un coût à l'incertitude. La question de est-ce qu'on reprend la copie Barnier en l'amendant ou est-ce qu'on fait un budget neuf, c'est un peu un arbitrage entre l'ampleur de ce qu'on peut mettre dedans, parce que malgré tout, si on fait un budget à partir de rien, on peut avoir des nouvelles mesures, alors que si on reprend la copie existante, on peut pas introduire de nouvelles mesures. On peut en enlever, mais on peut pas en rajouter. Mais ça va plus vite de reprendre la copie existante, et quand ça va plus vite, on donne de la visibilité plus rapidement si on arrive à voter un budget plus rapidement.
Et la copie existante, elle a conduit à la censure.
Mais oui, après on peut la modifier dans certaines mesures, mais on peut la modifier moins que si on fait quelque chose de nouveau. Mais le vrai sujet, c'est le coût de l'incertitude. Évidemment, c'est que tant qu'on ne sait pas quelles règles s'appliqueront, que ce soit celles qui étaient annoncées ou d'autres, les entreprises, les ménages sont dans une posture d'attentisme parce qu'on ne sait pas quelles règles vont s'appliquer.
Il est très bon.
Ça a un coût économique.
Ouais, l'exemple des billets d'avion, ce week-end, je me suis posé la question, les compagnies avaient commencé à prélever là, parce qu'évidemment, on n'achète pas un billet d'avion pour le 1er janvier, on l'achète avec un mois d'avance ou un mois et demi. Du coup, elles avaient commencé à facturer la taxe logique à la prélever pour pouvoir la verser sur les décollages d'avions à compter du 1er janvier. Et elles avaient dit, si finalement cette taxe est levée, on rembourse. Ouais, mais si on rembourse et que la taxe finalement elle ressurgit le 20 février, c'est l'enfer. On devient tous des super constitutionnalistes en ce moment. C'est absolument génial. Mais c'est vrai, ça va être l'enfer.
Ce genre de taxe, pour le coup, à ma connaissance, ça peut pas être rétroactif. Ou la TVA ou les billets d'avion, enfin ce genre de choses. Il n'y avait pas de mesure TVA, mais toutes les taxes sur des choses qui sont vendues à un instant T, une fois que c'est vendu, si la règle n'est pas votée au moment où c'est vendu, c'est fini. Donc elle s'appliquerait aux billets d'avion qui sont vendus à partir du moment où la loi est votée.
D'accord. Donc
à ma connaissance. Encore une fois, je ne suis pas juriste.
Il va falloir qu'Air France KLM rembourse les clients qui ont tous versé entre. Alors, c'est pas négligeable d'ailleurs. C'était quand même un triplement de la TSBA, la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Un jour où bientôt, la Fed et la BCE ne vont pas faire pareil, Nathalie Janson. Il y en a une qui a de la croissance, une qui a des gains de productivité, une qui éventuellement peut voir l'inflation remonter, une qui n'a pas de croissance, une qui n'a pas de gains de productivité, une qui voit l'inflation reculer plus vite que prévu. Donc on risque d'avoir grande divergence des politiques monétaires. Automatiquement, si l'une arrête de baisser ses taux, voire peut-être les remonte, sa monnaie va s'apprécier. Et si l'autre continue à baisser ses taux, voire les baisse plus que prévu et de manière plus forte que prévu, évidemment, sa monnaie va se déprécier. Est-ce que c'est un problème ou pas?
C'est un problème parce que je pense qu'au-delà des taux d'intérêt, donc je comprends bien qu'on fait de l'arbitrage sur les taux d'intérêt, mais au-delà des taux d'intérêt, la raison pour laquelle les États-Unis envisagent, en tout cas Powell a effectivement refroidi un peu les marchés parce qu'il a dit que finalement il n'allait pas baisser tant que ça à venir, il n'interviendrait pas beaucoup l'année prochaine et qu'il laisse planer le doute d'un éventuel changement aussi de politique monétaire. Au-delà de tout ça, c'est quand même le fait que les États-Unis, ils disent ça parce que les États-Unis ont une productivité qui a été en augmentation. Enfin, on en revient toujours au même problème. Donc, au-delà des taux, c'est que les États-Unis sont sur une route de croissance et l'Europe, on la voit pas. Donc, je veux dire, bien évidemment, en dehors de la question des taux d'intérêt, de toute façon, de fait, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques de croissance. Et ça, c'est très préoccupant, puisqu'on ne voit pas de changement de scénario pour l'Europe. Il y a des pays européens qui s'en sortent mieux que d'autres. Je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur tous les pays. Mais en effet, l'Allemagne, elle n'a pas donné des perspectives réjouissantes. Et en France, avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que c'est pareil. Donc, on se dit bien que ce n'est pas là où la productivité va ressurgir tout d'un coup.
Non.
Et alors que les États-Unis États-Unis, ils sont clairement engagés là-dedans. Et en plus, on a un Trump qui veut y aller deux fois plus vite. Alors effectivement, il y a toujours la question sur les tarifs douaniers, de savoir s'il va vraiment aller jusqu'au bout ou pas, si c'est un argument de négociation, puisqu'effectivement, ça pourrait plomber son plan pro-productivité. Mais c'est vrai qu'on est clairement sur une dynamique qui n'a rien à voir.
Mais c'est un problème pour nous,
c'est un problème.
On a toujours tendance à être rassuré quand on se dit « Oh, la Fed et la BCE vont dans la même direction. »
Oui, oui.
C'est
un problème parce que c'est un problème de divergence de sentiers économiques. Enfin, oui, je suis sûr que c'est surtout c'est ça qui est très préoccupant. Au-delà, effectivement, de la différence de taux d'intérêt qui peut faire effectivement préférer l'un ou l'autre selon, avec l'arbitrage et les couvertures. Bon, voilà, il y a toujours des cas où ça marche pas toujours très bien. Mais au-delà de ça, c'est surtout des sentiers d'expansion économique qui divergent de plus en plus. Et ça, c'est vraiment très préoccupant. Et quand vous voyez effectivement la manière dont Trump a pris, nommé son gouvernement avec les personnalités qu'il a mis à sa tête l'orientation qu'il donne, bon, au-delà de Musk qui effectivement est un peu il est un peu trop partout, mais il y a d'autres personnalités plus sages, je dirais, que lui, qui donnent quand même l'indication qu'on va dans une dynamique où on est très pour l'innovation et pour aller plus vite. Vous voyez ce qui se passe en France.
Enfin, il ne faut pas quand même que l'euro baisse.
Certains devraient se réjouir parce qu'on dit toujours qu'un euro bas, c'est bon. On verra qu'en fait, ça ne marche pas chez nous, mais ce n'est pas grave. Oui.
Normalement, l'euro bas, c'est le baume de l'exportateur et le poison du consommateur, en théorie.
C'est dangereux dans le sens que ça fait des sorties de capitaux. C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez, c'est l'euro qui baisse. C'est rien en soi. Mais si je vois que ça fait des flux de capitaux à long terme qui sortent de la zone euro, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les épargnants européens sont en train d'investir sur les actions américaines. Je grossis le trait, il n'y a pas que ça. Mais
je les comprends.
En gros, vous êtes en train de me dire que vous abaissez le coût du capital aux États-Unis parce que vous pensez que ça va être beaucoup plus productif. Donc vous dites, en gros, je vais encore plus soutenir l'économie américaine parce que j'abaisse le coût du capital qui va encore plus investir, qui va encore plus gagner en productivité, alors que l'euro, je ne vais pas investir en Europe parce que j'ai des perspectives économiques négatives. Et donc, finalement, la baisse, la divergence de politique monétaire, elle pourrait dire, en baissant ses taux, la BCE essaye de rééquilibrer tout ça, mais ça ne redonne pas confiance. Et c'est là où vous avez un problème. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Soit la baisse de l'euro traduit une situation conjoncturelle difficile, et on peut dire qu'en baissant ses taux, et la Banque Centrale Américaine pourrait même les monter. Allez, je vous fais même le scénario extrême. Bah, finalement, ça va rééquilibrer les choses. Mais si vous entretenez une défiance vis-à-vis de l'économie européenne, en disant, voyez, ça montre bien qu'on est dans une conjoncture de long terme divergente, là, vous accentuez le problème en faisant les sorties de capitaux à long terme qui vont encore plus accentuer cette divergence. Donc là, il y a un nœud à regarder qu'il ne faut pas que ça joue trop longtemps. Il faut vraiment redonner confiance aux agents économiques. Il faut vraiment que très rapidement l'Europe règle ses problèmes. Parce que je vous rappelle, aujourd'hui, il n'y a pas de budget en Espagne, il n'y a pas de budget en France, il n'y a pas de budget en Allemagne. Vous avez des élections anticipées en Allemagne. Donc, en gros, il y a une vision aujourd'hui qui est très, très noire de la part des investisseurs internationaux vis-à-vis de l'Europe.
On peut dire,
tout le monde est convaincu que l'Europe, ça va mal, ça peut que rebondir. On peut espérer ça. Mais il y a quand même un vrai élément aujourd'hui à surveiller. Parce que le gros problème, c'est que vous auto-entretenez une spirale vraiment négative. Donc, il faut vraiment redonner confiance l'année prochaine. Au-delà de la baisse des taux, il va falloir vraiment relancer, être crédible sur la politique économique en Europe.
Avant de faire de l'hélicoptère monnaie, vous avez regardé ce qui s'est passé ces dernières heures aux États-Unis et vous me dites ce matin, Christian Parizeau, que c'est quand même, il n'est même pas encore à la Maison-Blanche définitivement, enfin officiellement, mais c'est un revers pour Trump, car le plafond de la dette n'a pas été relevé et que le refus est venu d'élus républicains. Et qu'en plus, visiblement, certains sont un peu courroucés par l'omniprésence d'Elon Musk.
Oui, alors il y a deux choses. C'est un revers pour M. Trump, parce que ce qu'il voulait, là, c'est s'il a pris le risque de passer en shutdown. Alors d'une part, il s'est dit, vaut mieux que passer en shutdown avant que j'arrive, en mettant ça sur le dos de Biden. Mais ça peu importe, ça c'est son truc politique. Mais au lieu de ça, il était quand même prêt à bloquer, parce qu'il voulait avoir, finalement, une carte blanche pour sa prochaine présidentielle, en disant, suspendez-moi, voire supprimez. Hein, dans ses premières déclarations, il voulait supprimer carrément le plafond de la dette. Oui. Bon, après, il a dit suspendu, enfin, il n'était pas très clair. Mais en gros, il voulait avoir une une carte blanche de la part des députés de la Chambre des représentants pour finalement mener un plus gros déficit budgétaire, c'est-à-dire que pour stimuler encore plus l'économie. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains républicains très clairement qui ont dit non, on veut pas laisser carte blanche au futur.
Des républicains, c'est ça.
Oui, des républicains. Oui, oui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prochaine chambre, il a une très faible majorité sur la Chambre des républicains, et notamment c'est à peu près 30-38 républicains qui sont un peu remontés contre lui, et ils ont été d'autant plus remontés que on a eu Elon Musk qui a envoyé des tweets en disant qu'il allait financer s'il faisait pas ce que lui disait, et ce que disait le président, mais en gros, ce que lui avait mis, parce que c'est lui qui a lancé ça au départ, si on faisait pas ce que lui disait, il allait financer des personnes qui vont concurrencer ces républicains aux prochaines élections, qui financeraient lui-même avec sa fortune leur campagne électorale pour les dévisser. Donc il a fait une attaque contre le parti républicain en lui-même.
Wow.
Donc ça crée une mauvaise ambiance au-delà de ça, mais ça fait surtout que les républicains, on est en train de leur dire, vous êtes à la botte de M. Trump, vous êtes à la botte surtout d'Elon Musk, qui n'est pas du tout élu, qui n'est pas un représentant, qui n'a pas derrière la légitimité. Au moins Trump, on peut dire, il a été élu par les Américains. Vous pensez ce que vous voulez, mais il a été quand même élu assez majoritairement par les Américains.
Totalement majoritairement. Il a même le vote populaire.
Il a une légitimité quand même du peuple américain, ouais. Ce que n'a pas M. Musk. Et donc, cette interférence, M. Musk est venu plusieurs fois parler devant le Congrès, ça c'est déjà un peu choquant. Ouais. Il met une pression très forte sur les républicains en disant je vous ferai pas réélire si vous votez pas comme je vous le dis. Là, ça commence un petit peu à monter. Donc je pense que ça promet une année, mais faut pas croire que Trump a tous les pouvoirs. Je pense qu'il va y avoir quand même des propres contre-pouvoirs et au sein même de sa propre majorité. Et en tout cas, je pense que les tweets de monsieur Musk vont vraiment énerver beaucoup l'année prochaine.
C'est intéressant de voir que la messe est pas dite, il est pas encore à la Maison Blanche, ce sera le 20 janvier et Madame Janson, voici votre carte de crédit BCE. Avec cette carte de crédit, vous aurez 1000 euros tous les mois. Enfin, vous aurez 1000 euros à intervalles réguliers que vous devrez impérativement consommer dans les deux mois, sinon ils s'autodétruiront. Ça s'appelle l'hélicoptère monnaie. C'est Xavier Jaravel qui a fait barrière. Elle a été remarquée, la chronique, dans les échos de jeudi. Crédible, pas crédible. Il part du principe qu'à un moment, on va retrouver des taux nominaux très bas, des taux nominaux zéro, que l'arme traditionnelle des décisions de politique monétaire avec les hausses ou les baisses de taux ne sera plus efficiente et qu'il faudra autre chose.
J'ai plusieurs raisons de pas trop apprécier effectivement le concept d'hélicoptère monétaire. Enfin, je suis pas du tout, loin de là, une fan du concept. D'abord parce que c'est très micromanagement politique monétaire, donc ça fait quand même écho à ça renvoie à des idées de planification et j'aime pas beaucoup. Donc à la base, déjà il part d'un postulat que les taux nominaux redescendront à zéro. Je vois pas pourquoi. Donc vraiment, ça, je trouve que c'est une hypothèse hyper forte.
Je suis d'accord.
Ça veut dire que la productivité est nulle. Pourquoi la productivité est nulle? Non. J'ai du mal à comprendre pourquoi il veut absolument que les taux nominaux soient à zéro, déjà. Et puis, si les taux nominaux sont à zéro, c'est peut-être pas parce qu'il y a un problème de politique monétaire. Donc, déjà, je vois pas pourquoi on répondrait au problème avec une politique monétaire. Alors, il dit que oui, mais c'est comme si c'était une politique, enfin, comme la politique budgétaire, finalement, elle est financée avec la politique monétaire et que ça crée des effets qui créent des inégalités. Parce que ça passe par le marché financier et ça crée des bulles, donc ça c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, mais je dirais la politique monétaire a toujours créé des effets, c'est pas nouveau, simplement aujourd'hui ça se crée par les effets sur les marchés financiers, mais l'effet cantillon c'est tout simplement ça qui est mentionné, c'est-à-dire que quand on injecte de la monnaie, c'est ceux qui sont le plus près de l'injection monétaire qui bénéficient, puisque les prix n'ont pas encore augmenté, et c'est ceux qui sont à la fin du processus qui en bénéficient le moins. Voilà, donc il dit, comme aujourd'hui on a de la technologie qui nous permet d'aller directement vers ceux qu'on veut aider, mais déjà, pourquoi on voudrait aider ceux-là? Comment on sélectionne? Pourquoi est-ce qu'on veut faire des dépenses que des ménages doivent... c'est eux qui doivent dépenser. Systématiquement la demande?
Vous dopez la demande avec du pouvoir d'achat.
Tout à fait, est-ce que c'est le problème? Il est aujourd'hui, par exemple, dans notre économie, c'est pas un problème de pouvoir d'achat, c'est pas un problème de demande, notre problème. Notre problème, c'est un problème de pas avoir assez de gens qui travaillent et d'avoir des problèmes de productivité.
MDOF,
donc,
oui, ça,
voilà, donc déjà, et on va sélectionner comment on va dire que c'est ces gens-là, comment on va déterminer que c'est sur cette période. Ça fait, ça renvoie vraiment à beaucoup quand même à l'idée de planification, et puis ça renvoie quand même à ce que les Chinois font, enfin, ont envie de faire, en tout cas, dans une certaine mesure. Moi, je trouve ça quand même très étrange que quelqu'un comme Xavier Jaravel nous
mais
fasse l'éloge de la Chine. Sur cette question, parce que c'est, enfin, je veux dire, c'est quand même un retour, bon. ça rappelle le contrôle quantitatif du crédit, mais version ménage, c'est-à-dire version demande finale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on aurait la possibilité d'avoir ces comptes. Alors, les comptes, il faut savoir que c'est pas nouveau. Les banques centrales ont eu des comptes directement avec les particuliers.
Oui, mais j'avais ouvert un compte Banque de France quand j'avais 18 ans.
Exactement.
Et un jour, on m'a dit, monsieur, il faut le fermer parce qu'on arrête.
Voilà. Et donc, on les a fermés pour une raison. Et puis, c'est pareil. Il met quoi en face de ça? C'est-à-dire, c'est une ligne de crédit qui est financée par qui? De toute façon, c'est du déficit public. Donc, moi, j'ai vraiment du. Enfin, bon. Je ne vois
quel
pas.
Montant, quoi, quel montant, parce que le niveau de vie n'est pas le même en pays.
Non, mais c'est ça. Ouais. Enfin, vous imaginez comme c'est tentant pour l'opinion d'entendre un truc comme ça.
Ah bah, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très étonnant de sa part, parce que c'est hyper populiste. Mais voilà.
Mais non, mais j'ai pas trouvé la date. Quand est-ce qu'il va? Mais je lui demanderai. Il va s'expliquer. Expliquez-vous, Xavier.
Expliquez-vous. Pour le, enfin, au-delà de tous les problèmes opérationnels de comment on choisit qui pendant combien de temps, est-ce que dans les pays à niveau de vie différent donne le même nombre d'euros, je pense que fondamentalement, on peut se dire à la limite. En cas de prochaine crise où la banque centrale un peu est à court d'outils, pourquoi s'interdire de réfléchir un peu hors du cadre? Après tout, les achats d'actifs, on n'y aurait pas pensé il y a 20 ans. Hein. Je pense que quand la Banque centrale européenne a été créée, personne ne pensait qu'elle achèterait des centaines et des centaines et des centaines de milliards de titres publics. Donc, se dire, bon, en cas de crise, pourquoi pas réfléchir à des outils nouveaux qui permettent peut-être d'être plus efficaces, machin. Enfin, bon, ils ont une recherche derrière sur comment faire que les ménages consomment. Voilà. Ensuite, là où je viens, c'est que fondamentalement, bon, d'une part, oui, la politique monétaire, elle a toujours eu des effets de bord. Alors, on choisit un peu ces effets de bord selon les outils. Les taux d'intérêt négatifs, ça a des mauvaises propriétés par certains aspects. Beaucoup d'achats d'actifs, ça en a d'autres. Ils essayent donc, on ne trouvera pas l'instrument qui n'en a pas. Mais ensuite, moi, ce qui me dérange un peu dans ce canal, c'est effectivement ce côté tout axé sur la demande. C'est un peu ce que fait la politique monétaire d'habitude, mais particulièrement la consommation des ménages. Alors, quand on agit sur les taux d'intérêt, on essaye aussi d'agir, même en premier, sur l'investissement. Or, l'investissement, vous avez un effet demande à court terme, mais vous avez aussi un effet offre à long terme. L'idée, c'est quand même aussi, on essaye de baisser le coût du capital. Alors, on passe par les banques, mais d'essayer d'arriver aux entreprises et au coût du crédit aux entreprises, qu'elles puissent investir davantage. Ça vous fait de la demande. Ça peut rehausser les prix, ce qui est le but aussi, mais à long terme, ça vous fait de l'offre en plus. Alors que la consommation des ménages, ça vous fait pas de l'offre en plus à long terme. Or, on le dit depuis le début de cette émission, on a un problème d'offre, on a un problème de productivité, on a un problème d'investissement. Et donc, si on se dit, on n'agit plus que sur la consommation des ménages pour remonter les prix, mais il y a rien pour les entreprises puisque c'est pas elles qui auront le compte, d'après ce que j'ai compris de la tribune, c'est un peu déséquilibré.
Waouh, Christian, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, c'est juste dire aussi, hein, si on fait ce genre de choses, on va jouer sur la consommation. Alors, d'une part, il est pas impossible qu'en faisant ça, on fasse remonter le taux d'épargne, parce qu'il peut y avoir une substitution, c'est pas évident.
Mais moi, je
dépense ces 100, enfin, donne 100 euros, je dépense 100 euros, mais je dépense pas sur mon compte bancaire 100 euros.
Il substitue.
Donc, la date limite, elle est fausse, parce que je peux acheter n'importe quoi avec mes 100 euros et finalement, je vais pas dépenser dans autre chose. Donc, ça, c'est pas forcément aussi efficace que ça. On croit comme ça que c'est efficace, mais ça peut être.
Ils disent que c'est plus efficace que d'autres formes.
Oui, mais après, on le sait, ça va aller surtout aux importations. Donc il faut tenir compte aussi de la fuite qui est liée au fait que ça va profiter. On va relancer la Chine, on va relancer
parce
en dehors de la zone
le
euro.
Gros le gros de la consommation, ce sont des produits importés.
Surtout des consommations courants. Quoi. Si on achète des biens avec ça, si avec ces 100 euros j'achète des jouets pour Noël, c'est très bien pour mes enfants, mais ça va être très bien surtout pour le producteur chinois, puisqu'on sait que tous les jouets sont fabriqués aujourd'hui en Chine. Donc l'effet net sur la croissance, c'est pas aussi évident que ça,
je suis d'accord. En plus, quand tu as ouvert le robinet, si un jour il faut le refermer.
L'effet multiplicateur n'est pas donné non plus.
C'est-à-dire,
parce que c'est pas l'effet entre ces éléments-là, entre le fait de hausse d'épargne, importation qui pourrait se substituer, vous n'avez pas d'effet récurrent derrière, vous n'avez pas un effet de relance forcément de l'emploi, vous n'avez pas forcément ce qui a été dit précédemment, on joue pas sur l'offre. Donc on n'a pas un effet forcément. Ouais. Une fois que vous retirez 100 euros, vous rechutez. Ou alors faut maintenir tout le temps indéfiniment les 100 euros et monter à 150, 100, 200, 300.
Dans la chronique, il disait à perpétuité.
Oui, à perpétuité, mais dans ce cas-là, vous l'avez l'effet à court terme, mais vous n'avez pas l'effet multiplicateur derrière, dans le sens que c'est faudrait mettre tout le temps plus pour véritablement avoir de la croissance en plus. Donc vous voyez, c'est quand même
Et surtout que dans ce donc déjà en
Le pauvre Xavier qui est pas là pour se défendre. Bon, c'est regarde, non mais il aura la parole, c'est promis.
Oui, oui. De toute façon, je suis certaine qu'il défendra son. Voilà, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, hein. Mais et au-delà de ça, de toute façon, les projets pour le moment de monnaie banque centrale, en fait, ne vont pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers un compte ouvert à la banque centrale. Donc déjà, je trouve que c'est être à côté du projet d'euro digital, parce que l'euro digital pour le moment ne préconise pas l'ouverture de comptes des particuliers à la banque centrale, donc c'est un élément supplémentaire. Oui. Et vous voyez bien que vous pouvez rentrer dans une planification horrible, c'est-à-dire que comme ça va aller aux importations, alors je vais dire que tu dois consommer dans les 6 mois chez des fabricants qui sont exclusivement français. Avec, vous voyez, on va se retrouver dans un truc mais hyper planificateur, donc c'est pour ça que j'étais assez surprise, parce que si vous voulez effectivement favoriser la dépense au niveau français, vous allez rentrer là-dedans.
Bah, c'est bien,
on,
mais
on sort de la politique monétaire.
Exactement.
La Banque centrale n'est pas censée faire de la politique allocative. Enfin, elle est censée faire des choses qui sont aussi peu, avec aussi peu de choix que possible, au-delà du fait d'essayer d'agir sur sa cible d'inflation. Si on commence à dire, alors je veux des producteurs français, pas français, etc., là, en fait, on est dans les prérogatives des gouvernements, hein, concrètement.
Exactement.
Des gouvernements élus et pas de la Banque centrale. Dès qu'elle commence à faire un peu trop d'allocations, en dire tel ménage, mais pas tel ménage, telle entreprise, mais pas telle entreprise, tel bien, mais pas tel service, ça commence à vraiment plus être de son ressort.
C'est assez passionnant, quand même, ce sujet. On est un peu théorique, parce qu'il n'existe. Mais j'ai ici des invités qui viennent et qui pensent que quoi qu'il arrive, on y viendra. Jean-Pierre Petit fait partie de ceux qui pensent que
l'hélicoptère Moni... Oui, je l'ai entendu réagir, justement, il était très heureux. Il a dit que c'était une très belle tribune.
C'est la deuxième banque en France, Nathalie Janson, qui obtient un agrément AMF, le PSAN, l'agrément prestataire de services sur actifs numériques pour proposer des cryptos à ses clients, BPCE. Il y a une filiale dédiée qui s'appelle Exarch. Et Exarch va pouvoir... Donc ça y est, les banques maintenant deviennent elles-mêmes pourvoyeuses. C'est bien, pas bien, c'est... Je sais pas comment vous voyez ça. Jusqu'ici, il fallait passer par des plateformes un peu spécialisées, quoi.
Alors, par où je peux commencer?
On a 2 minutes 29.
Oui, non, je vais aller très vite. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les clients de la BPCE, parce que pour le moment, là, quand même, le comportement globalement des banques vis-à-vis des clients qui ont des cryptos est quand même assez désagréable. C'est-à-dire que très souvent, enfin, c'est assez commun de se voir refuser le virement qu'on a voulu faire pour acheter des cryptos sur une plateforme parce que on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'ils ont des... alors que la plateforme est homologuée. Hein. Mais voilà, donc vous en avez des millions d'histoires comme ça, de gens qui n'arrivent pas à finaliser ou qui ne peuvent pas retirer parce que leur banque leur a dit, comme c'est des cryptos, c'est pas bien, donc je veux pas. Donc, bon, est-ce que ça peut aider de ce côté-là, ou des gens qui font des virements permanents sur des comptes Bitcoin et à un moment donné, ils sont suspendus et ils ne savent pas non plus pourquoi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'on va arrêter d'enquiquiner et de diaboliser les gens qui ont des cryptos, qui ne demandent rien à personne et qui le font avec des plateformes qui sont déjà homologuées. La deuxième remarque, c'est qu'on voit très bien le biais français, c'est-à-dire que les banques vont y aller pour essayer de verrouiller ça, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un avantage parce qu'elles sont déjà très réglementées à tous les niveaux et que, par rapport à des plateformes qui sont là ou qui sont en train d'émerger, elles vont avoir le dessus parce qu'elles ont la surface. Comme on demande aujourd'hui aux acteurs crypto en Europe d'avoir des procédures de réglementation qui augmentent, puisque c'est au 1er janvier 2025 que MiCA s'applique, la réglementation européenne.
MiCA, c'est la
réglementation sur les cryptoactifs.
D'accord.
Donc, comme elle rentre en vigueur en janvier 2025, les banques ont un avantage énorme en termes de compliance, puisqu'elles ne font que ça depuis les accords de Bâle, c'est-à-dire depuis la fin des années 80. Donc, elles sont très rompues à l'exercice. Donc, elles ont un avantage comparatif énorme. Et donc, ça va leur permettre de rentrer sur le marché et de pouvoir, effectivement, conquérir des parts de marché. Donc, je trouve ça très drôle.
Étape de plus dans le développement.
Et un peu triste quand même, parce que ça veut dire que l'innovation, encore à nouveau... Elle n'est pas très favorisée.
Oui, mais enfin, c'est pas triste, ça élargit le...
C'est très institutionnel, c'est très français.
Ouais. Bon, merci à vous trois d'avoir été là, à la veille de Noël, n'est-ce pas ? Nathalie Janson, Dorothée Rouzet, Christian Parizeau, on va se retrouver en 2025. Je suis ennuyé, j'ai regardé le planning, là je ne retrouve pas de date avec Xavier Gravel, je ne sais pas quand est-ce qu'il vient. Oh, j'espère qu'on a une date ensemble quand même, parce que là il y a Far qui nous raconte. Bon, je réparerai ça bien sûr, n'ayez crainte. On se retrouve demain, ce sera la dernière de l'année. Après il y aura une petite pause. Et donc demain je vais leur dire carte blanche. Voilà, que vous racontez ce que vous voulez. Non, on fera du bilan perspective, les grands dossiers qui nous attendent. Voilà, voilà. Bonne journée, à demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.